Sud Radio, il est 3h. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
Eh ben bien le bonjour, bonjour à toutes et à tous et bonjour mon cher Frédéric Brindel.
Bonjour Judith Belair, c'est bien l'été, les vraies voix, ces débats, ces jeux
et cet air.
Cet air sec et chaud, c'est pas évident, hein. Elle le dit bien, ouais. Iria André, sec et chaud.
Voilà. C'était une blague ratée donc.
Ouais.
Vous êtes bien dans les vraies voix de l'été, vous l'aurez compris, c'est votre rendez-vous quotidien sur Sud Radio chaque jour de 17h à 19h, 2h de débats sans filtre, d'échanges francs, de témoignages engagés, des invités, des citoyens, des idées qui secouent, des coups de gueule qui résonnent et puis quelques coups de cœur aussi.
Judith, acceptez s'il vous plaît de nous révéler le programme.
Ah oui, je l'accepte avec un grand plaisir mon cher ami. Alors, le grand débat à 17h30, François Bayrou a dévoilé hier son projet de réforme de l'administration territoriale de l'État. Au cœur de cette initiative, renforcer les pouvoirs des préfets, puis une mesure phare qui fait débat une année blanche sur les dépenses publiques, incluant un gel partiel des prestations sociales. Objectif affiché, plus d'efficacité, moins de gaspillage. Mais à quel prix? Est-ce une réponse responsable à la crise budgétaire ou une mise sous tension des plus fragiles?
Qui va payer? La réponse, c'est...
C'est nous.
Répondons-nous tous en cœur. Les sénateurs ont fait d'ailleurs quelques propositions pour trouver 50 milliards d'euros d'économies, notamment au sujet des prestations sociales. Notre question pour vous, les auditeurs de Sud Radio, sur le compte X, projet de réforme Bayrou. Faut-il geler les dépenses publiques pendant un an? Qu'en pensez-vous? Donnez votre avis. Benoît Perrin, le directeur de Contribuables Associés, sera notre grand témoin du débat.
Et puis, il y a notre coup de projecteur à 18h40. Contenu haineux sur le web, le gouvernement met en place une coalition d'associations soutenues financièrement par l'État et en partenariat avec l'ARCOM, l'autorité chargée de réguler les médias, mais aussi le CRIF, la LICRA, SOS Homophobie, Oser le Féminisme, entre autres. La ministre Aurore Berger souligne la grande responsabilité des plateformes numériques et avertit que la France, en coordination avec l'Union Européenne, prendra toutes les mesures nécessaires en cas de manquement à leurs obligations.
Cette fois-ci, il faut dire stop à toute cette violence verbale déversée le plus souvent anonymement. La France et l'Union européenne presse les propriétaires de plateformes. Notre question, vous y répondez. Coalition contre la haine en ligne. La vraie question, c'est, faut-il supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux? Thierry Léandre Le Fur, expert en comportement numérique et addictif, sera lui aussi notre grand témoin du coup de cœur.
Vous nous appelez au 0826 300 300 pour témoigner. Vous votez sur X à nos questions et puis on va vous présenter nos éditorialistes du jour.
Les vraies voix Sud Radio.
Nous sommes, bonjour mesdames, avec un plateau très très féminin aujourd'hui. Vous êtes très très bien entouré, Frédéric Brindel, hein, je tiens à le dire quand même, je le redis.
Mais ça me semble logique.
Voilà. Ben, ça sera dit. Alors, à votre gauche, n'est-ce pas, Frédéric?
Vous avez vu, je suis pas piégé. D'autres auraient dit, eh bien oui, dans ce charme, ça c'est l'ancienne école, ça.
Oui,
moi je dis, mais c'est logique.
Vous êtes très moderne.
Merci.
Donc, à votre gauche, n'est-ce pas, Anne-Lorraine Rousseau. Anne-Lorraine, vous êtes journaliste pour Valeurs Actuelles. Bien le bonjour.
Bien raison de dire à notre gauche,
ouais,
du coup.
C'est pas pour rien que je l'ai dit. Voilà,
c'est drôle, ça, Anne-Lorraine aussi. Hein, voilà.
Très bien positionnée.
Et alors, à ma droite, Rosie Bordet, fondatrice et directrice de l'agence en communication RB et associée et adjointe au maire à Saint-Georges de Reintembeau, c'est dans l'île et Vilaine, la Bretagne.
Je suis bien placée.
Ouais. Vous êtes bien placée, il faut vous rapprocher du micro, ma chère Rosie, attention, comme ça on vous entendra bien surtout.
Ça vous va?
Ah,
voilà,
bien.
Au top.
Parfait.
Eh bien, qu'est-ce qu'on fait à 17h07 sur Sud Radio? On joue, hein? On joue pour gagner. Alors, sur Sud Radio, on vous fait gagner un pack Lexon avec des objets design et connectés. Il y a des bubble lamps. Sorry.
Alors. Ouais, mais c'est l'accent écossais qui veut ça, en fait.
C'est une lumière douce et apaisante pour créer une ambiance unique. Elles sont rechargeables. Et puis, il y a des radios Tico, des enceintes Bluetooth minotées, compactes, puissantes et résistantes. Et puis, surtout, parfaites, évidemment, pour écouter Sud Radio. Puis, le MacBank, hein, c'est une batterie sans fil externe, compacte et magnétique, conçue pour allier performance et élégance. Vous pouvez gagner ça en nous appelant. Il va falloir choisir le numéro gagnant. Tiens, Rosie Bordet.
Au combientième, un chiffre, le combientième appel?
Allez.
On fait moins d'un million parce que après, ça fait une grosse audience, quoi.
On va dire 250.
Bon, on va faire 25, ça vous va ou pas?
Je suis très optimiste comme fille.
Bah non, mais c'est en fait qu'on est
sinon,
le vainqueur
si on fait
assez 5
et 2,
vite
ça
quand
fait
même.
7, hein.
Ouais. Voilà. Non, pas
oui.
Alors, Rosie,
allez, on va dire
25.
Quinzaine.
Mais c'est bien 25.
Quinzaine.
15. Allez, 15. On part sur 15.
D'accord, 15.
Bon. Et ben voilà, vous nous appelez au 0826 300 300 si vous voulez gagner ce magnifique pack Lexon, bien évidemment. Et puis, on attend vos appels. Le numéro 15, on a dit, et le numéro gagnant. Et puis tout de suite, on part en duplex, hein, Frédéric.
Oui, évidemment, depuis hier, nous suivons sur Sud Radio les différents lieux où les feux de forêt dans le sud de la France se sont déclenchés. Et nous allons partir dans un premier temps sur le secteur à la fois de l'Aude et de l'Hérault. Christine Bouillot, notre journaliste présente sur place depuis plusieurs jours, passe d'un PC sécurité à un autre. Christine, bonjour, merci
Christine.
De nous retrouver. On fait le point, l'Aude et l'Hérault, où en sommes-nous ?
Alors, si vous voulez bien, bonsoir à tous. On va commencer par le département de l'Hérault, où là, on peut dire donc ce soir, l'incendie qui a débuté donc hier à la même heure quasiment a été maîtrisé. Sur les 5 heures ce matin, 400 hectares ont été brûlés. Alors, je vais vous donner un chiffre qui donne l'ampleur en fait de la vitesse de l'incendie. Ce feu qui était dans le secteur de Castelnau de Garce s'est propagé à la vitesse de 1700 mètres par heure. Il a parcouru plus de 3,5 km en direction de l'autoroute A9. Et donc, c'était la grosse préoccupation. Et c'est pour cela que l'autoroute A9 a été coupée, puisque les soldats du feu ont tout fait pour éviter que l'incendie passe la barrière de l'autoroute A9.
Ça a été rouvert, l'autoroute A9,
oui,
Christine.
Oui, hier soir, mais je veux dire, tout à fait. Mais simplement, c'est pour montrer le travail acharné. Sur la seule journée d'hier, dans le département de l'Hérault, il y a eu 9 départs de feu quasiment à la même heure et plusieurs se sont produits le long de l'autoroute. Et pour les autorités et le préfet en particulier, c'est tout simplement lié à des jets de mégots. Ça ne peut pas être autre chose, a-t-il dit. Donc, il demande et il rappelle notamment à tous les touristes, des millions de gens viennent chaque année dans cette zone, et bien d'être extrêmement vigilants à la fois sur l'utilisation de leurs mégots quand ils fument, des barbecues quand ils sont installés dans des zones, on va dire, boisées. Les randonneurs aussi, de respecter les massifs qui ont été fermés. Un massif a été fermé dans le département de l'Hérault. Il y a eu jusqu'à 850 sapeurs-pompiers mobilisés sur le département. 300 vont rester. Donc, je le redis, ce feu est maintenant maîtrisé, mais il n'est pas fixé. La différence, c'est qu'il faut en continuer à traiter ce qu'on appelle les lisières. On a assisté à ce travail acharné des pompiers ce matin. C'est-à-dire qu'ils vont à pied étouffer avec des tonnes d'eau toute petite flamèche, toute fumerole qui pourrait donner un nouveau départ de feu.
Vigilance, donc effectivement, vous le rappelez, Christine Bouillot. Un petit point rapide sur l'Aude aussi, parce que vous avez l'œil également sur le département voisin.
Ouais. Absolument, j'allais y venir. Donc le débarnement de l'Aude, là, la situation est un petit peu différente. 2000 hectares brûlés, donc pour l'instant le dispositif n'est ni maîtrisé ni fixé. Le feu continue, mais il n'avance plus. Là aussi, le travail se fait d'arrache-pied, mètre par mètre. On va vers les fumerolles et on noie toutes les fumerolles qui pourraient donner lieu à un nouveau départ de feu. Le dispositif donc reste celui-là. Donc à l'heure où je vous parle, pour l'instant, on ne peut pas parler ni d'un feu maîtrisé ni fixé, mais il ne progresse plus. Donc c'est la grosse différence. Donc de ce côté-là, la surveillance va rester, on l'a dit, jusqu'à nouvel an, puisque la superficie, vous imaginez, c'est 2000 terrains de football qui sont partis en fumée en l'espace de 24 heures. Donc il faut absolument rester vigilant sur ce secteur. Le vent continue de souffler. La seule petite lueur d'espoir, j'ai envie de dire, pour la façade méditerranéenne du côté de l'Aude et un peu de l'Hérault, c'est le retour demain attendu de ce qu'on appelle le vent marin. Ce vent qui va venir de la mer.
Un peu d'humidité, donc.
Et qui va faire baisser la température. Les vacanciers ne vont peut-être pas apprécier, mais ça va donner de l'air et un moment de répit aux pompiers qui ont été mobilisés. Jusqu'à 1000 pompiers ont été mobilisés dans l'Aude.
Et c'est le plus important, effectivement. Alors, enquête, bien sûr, Christine. On vous laisse retourner au PC Sécurité. Vous nous avez fait le point sur l'Hérault, sur l'Aude. On fera aussi tout à l'heure un point sur les Bouches-du-Rhône à Marseille. Évidemment, Sud Radio à votre écoute. Et si vous, les auditeurs, vous voulez témoigner, vous avez un point de vue sur la situation, 0826 300 300, Judith.
Merci Christine Bouillot. Tout de suite, d'ailleurs, puisque on parle d'auditeurs qui appellent, on part au 0826 300 300, pour écouter Marie-Christine qui nous appelle d'Eure-et-Loire.
Oui, bonjour.
Bonjour Marie-Christine, comment ça va?
Bonjour. Avec le soleil, très bien.
Oui, c'est vrai que l'Eure-et-Loire, c'est quoi, à côté de Chartres?
Exactement.
Quand le soleil va, tout va. Bon, là, ça va un peu moins, Marie-Christine, parce que vous avez un coup de gueule à passer sur les affiches antisémites qui ont été collées dans le Var.
Exactement, c'était mon coup de gueule. J'ai entendu cette information tout à l'heure sur les médias. C'est absolument... Je crois qu'il n'y a même pas de mots. C'est honteux, c'est scandaleux. C'est que l'on soit antisémite. Bon, à la limite, je veux bien. Enfin, j'apprécie pas, mais je veux bien. Mais qu'on puisse l'afficher de cette façon-là, à visage découvert, parce que si j'ai bien compris, cet affichage, il est commandé.
Alors, je vous coupe, hein, il y a eu un visage caricaturé d'un rabbin placé à l'avant d'un missile avec comme inscription missile rabbin pour école et hôpitaux.
Ouais. Et on rappelle, l'antisémitisme est un délit. Donc, en fait, bon, je comprends votre formule, mais voilà. Ouais. Et donc, vous alertez contre ces agressions qui sont de plus en plus fréquentes. C'est ce que vous dites.
Absolument. Oui. Qui sont absolument inadmissibles et scandaleuses. Et j'espère que la personne qui ose le faire à visage découvert va être sanctionnée très sévèrement. Alors, parce que ça n'a pas de nom.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Anne-Lorraine Rousseau, très rapidement, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Simplement, il faut être préparé au fait que ça va arriver de plus en plus fréquemment, parce que c'est pour le moment, il me semble, impuni, qu'on n'est pas à la première affiche antisémite ou avec un semblant d'antisémitisme caché ou pas caché vraiment. Ça va arriver de plus en plus, il faut que ce soit puni. Je suis pas sûre que ce soit le cas, on va en reparler tout à l'heure. Oui, ça va être sûr. Un de nos sujets avec la lutte contre la haine en ligne.
Oui,
vous allez voir que les associations qui ont été choisies, à mon avis, ne vont pas nous aider dans le combat contre l'antisémitisme.
Ah, ok. Rosie Bordet.
C'est très choquant, et plus ça va et plus on tire de plus en plus loin, c'est-à-dire que l'affiche, après on avec des mots écrits sur les murs, enfin aujourd'hui on agresse les gens. Moi je me pose juste une question, à quel moment on va punir ces gens, la justice, et va prendre en compte et va aller un peu plus vite justement pour régler ces problèmes.
Merci Marie-Christine, vous restez avec nous puisque vous êtes notre auditrice fil rouge.
Oui, on va la retrouver pour les débats, jeux, etc.
Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de participer aux Vraies Voix, eh bien vous appelez le 0800 26 300 300 parce que Sud Radio vous donne la parole. Et puis parle en vrai sur Sud Radio, bien sûr. Et c'est les trois mots de l'actu de Félix Mathieu bientôt, et puis surtout le Tour de France.
Ah oui, bon, tout va arriver là.
Allez, ouais. À tout de suite.
Sud Radio Cahors.
105.
Sud Radio.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. How would you lay me down to a dead and buried? On the edge of your knife, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found. Yeah.
something so out of the ordinary. Oh, you're laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
17h19 sur Sud Radio, c'est l'heure des trois mots dans l'actu de Félix Mathieu. Vos trois mots du jour, Félix: incendie, perquisition et concession.
L'incendie qui a touché Marseille est désormais fixé, indique la préfecture. Les flammes laissent un paysage de désolation et des habitants hagards après une nuit blanche. Le siège du RN perquisitionné pour une enquête sur les campagnes électorales de 2022 et 2024. Les policiers investiguent sur des prêts octroyés par des particuliers au parti, le Rassemblement National, qui dénonce de son côté un scandale démocratique. À suivre aussi, les très lucratives concessions autoroutières devraient bien rester au prix. Elles arrivent à terme, mais le gouvernement veut les renouveler, mais en contrepartie d'un contrôle plus strict, promet le ministre des Transports. Et puis l'Olympique Lyonnais va finalement rester en Ligue 1. Gros ouf de soulagement du côté de Lyon.
Les vraies voix Sud Radio.
C'est bien un véhicule en feu sur l'A55 qui a provoqué l'incendie des Pennes Mirabeau qui a touché Marseille, confirme le procureur aujourd'hui. Des flammes désormais fixées, laissant 750 hectares détruits, une dizaine de maisons touchées, dont une dizaine détruites. Beaucoup ont passé la nuit à arroser, à protéger les habitations près de chez eux, comme par exemple Olivier dans le quartier de l'Estac à Marseille.
On était les derniers à arroser, que ce soit les jardins des voisins, en face, les pins. Et quand on a vu que ça avait sauté, que c'était en bas, de l'autre côté de la route, hein, c'était à 5 mètres du portail, même pas, il était temps de partir, parce que on n'est pas des héros, hein, on n'est pas des pompiers. C'est leur métier, hein, c'est eux les héros.
Là, ce qui est marquant, c'est de voir là, la colline noircie, les arbres enfumés, et à côté, il y a des maisons intactes.
Exactement, bah, comme la mienne, comme celle des voisins, comme les voisins à côté. Et vous passez 2-3 maisons plus loin, il n'y a plus de maisons. J'allais dire, c'est la loterie. Pour certains, c'est toute une vie, même... Depuis les grands-parents, ce quartier il est quand même ancien, il y a des anciens. C'est triste, c'est une histoire qui s'en va. Il faut compter qu'on est vivant. On va reconstruire et la colline, d'ici 2 ans, 3 ans, elle va reprendre ses couleurs.
70 habitations touchées, dont une dizaine détruites. Donc Olivier, habitant du quartier de l'Estac, au micro de Lionel Maillet. On sera en direct avec Lionel d'ailleurs dans une heure, hein, dans les vraies voix sur Sud Radio. On entendait Christine Bouillot tout à l'heure. L'incendie de Castelnau-de-Guerre s'est désormais fixé dans les Roues entre Sète et Agde. 400 hectares brûlés. Celui de Montardier dans le Gard n'est pas encore maîtrisé, indiquent les pompiers. Il a parcouru 500 hectares. Et puis du côté de Narbonne, dans l'Aude, 2000 hectares touchés. Les flammes toujours actives, mais elles ne menacent plus les habitations cet après-midi.
18h10, hein, le point à Marseille pour les incendies.
Deuxième mot, Félix, perquisition. Le RN visé par une enquête sur le financement de ses campagnes électorales.
Oui, perquisition au siège du Rassemblement National dans une enquête pour financement illicite des campagnes de 2022 et 2024. Une vingtaine de policiers, deux juges d'instruction investiguent sur des prêts octroyés par des particuliers au RN. Alors grosso modo, ils se demandent s'ils ont bien été remboursés, auquel cas ce serait considéré comme des dons dissimulés. En tout cas, devant le siège du parti en pleine perquisition dans le 16e arrondissement de Paris tout à l'heure, Laurent Jacobelli, député et porte-parole du RN, dénonce une procédure politique.
C'est un véritable scandale démocratique que nous assistons, inédit, dans la 5e République, sous prétexte de vérifier des prêts que nous auraient fait des adhérents. La police est arrivée aujourd'hui et a mis la main sur l'ensemble de nos données, bien évidemment les données financières, l'ensemble des mails, des notes privées de nos dirigeants. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, le premier parti de politique de France n'a plus aucun secret pour le gouvernement. Nos listes de candidats, nos programmes, la manière dont nous souhaitons faire campagne, nos stratégies sont connues du gouvernement.
Laurent Jacobelli, député et porte-parole du RN, des perquisitions aussi au domicile de certains dirigeants du parti, indique le parquet. Ça intervient au lendemain de cette autre enquête, cette fois du côté du Parlement européen, sur des dépenses de plusieurs partis tout à droite de l'hémicycle européen, dont le RN et ses partis frères au sein de son ancien groupe.
Réaction de nos vraies voix, Anne-Lorraine Rousseau, ce que dit Laurent Jacobelli, victimisation finalement, ça prend ça comme argument ou pas ?
Franchement, je sais pas. Enfin, j'attends de voir en fait concrètement l'enquête, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. S'il y a des détournements, non, mais si les comptes ne sont pas clairs, évidemment, il faut répondre à cette question-là. C'est pas normal que ça se passe comme ça. Après, j'attends de voir aussi la réponse du RN à ce niveau-là. Est-ce qu'ils vont bien se défendre ? Je suis pas sûre qu'il l'ait particulièrement bien fait, par exemple pour Marine Le Pen au moment de son inéligibilité, mot très compliqué à dire au demain.
Vous dites ça parce que moi j'ai pas réussi le lien précédemment.
Chaque fois, je réfléchis avant de le dire.
Vous l'avez dit que c'était une attitude, la blondeur.
Et donc voilà, donc j'attends en fait concrètement de voir, ça vient de sortir, on n'est pas encore vraiment au courant de tout ce qui s'y passe. Je pense que la victimisation, c'est pas la bonne stratégie non plus, parce que tout le monde fait ça, et à chaque fois, ça ne fait qu'exaspérer les Français et les Français qui payent pour, au niveau national et européen. Donc, je pense que c'est pas la bonne solution. Donc, on attend de voir.
Pour rebondir sur ce que dit Anne-Lorraine Rousseau, on est un peu dans l'ère de la victimisation en ce moment, Rosie Bardet, non ?
Je retiendrai le mot exaspération. Je crois que les Français sont exaspérés parce que le RN à chaque fois se victimise. Par rapport à tout ce qu'ils font, qui sont dans l'illégalité. Je pense s'il y a enquête, s'il y a perquisition, c'est qu'il y a quand même des choses. Moi, je suis pas ni avocate, ni quoi que ce soit au sein de la loi, de la justice. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de donner cette image-là aux Français. Parce qu'au fait, c'est un dégoût de la politique. Je vais aller plus loin de ça. C'est un dégoût de la politique, que ça soit à droite, à gauche, peu importe. Mais aujourd'hui, l'image qu'on donne des politiques, c'est vraiment en vomir. Moi, je suis élue locale dans une petite commune. Je peux vous dire que tout ça, ça laisse les gens. Au fait, c'est une espèce d'abandon à la vie locale, à la vie de la cité. Donc, il faut vraiment faire très attention. Je pense s'il y a enquête, il faut laisser l'enquête aller jusqu'au bout et voir ce qu'il va en être. Mais c'est aussi bien, il y a eu la droite, il y a eu le RN, il y a eu la gauche. Il y a toujours des histoires. Donc à un moment donné, les gens en ont ras-le-bol.
C'est pareil pour
les gens en ont ras-le-bol. Mais toujours, le RN est toujours en train de crier, pardon, d'aboyer. Mais finalement, la justice a quand même rendu les résultats.
Alors, votre troisième mot, Félix, concession. Le gouvernement veut maintenir les autoroutes dans le giron du privé.
Oui, les concessions des autoroutes françaises. Elles sont censées arriver à leur terme dans quelques années, ces concessions au privé, mais elles vont être renouvelées. Enfin, en tout cas, c'est ce que veut le ministre des Transports. Il le confirme à l'AFP cet après-midi, à l'agence France Presse. Très lucrative, cette concession au privé est l'objet de beaucoup de critiques. En contrepartie du maintien, donc, de ces concessions, de cette délégation, le gouvernement indique qu'elles vont avoir un cadre plus exigeant, mieux contrôlé, pilotage plus strict de l'État, avec notamment c'est ce que promet le ministre des Transports, un fléchage de l'intégralité des recettes des futurs péages vers les infrastructures de transport, vers le ferroviaire notamment, régénération du réseau. Voilà les arguments du gouvernement pour faire avaler la pilule aux automobilistes qui grinchent au péage, puisqu'il y a un rapport récemment qui avait indiqué qu'elles étaient particulièrement
grincheux. Ils ont les dents qui grincent aussi.
Ils sont grincheux. En même temps, si on veut tracer, on voit les profits que fait Vinci, par exemple, puis on comprend assez vite.
C'est notre futur nouveau job. Allez, un petit mot sur l'Olympique Lyonnais qui va rester en Ligue 1.
Oui, gros ouf de soulagement à Lyon, club repêché par la DNCG, le gendarme financier du foot français. L'OL a failli, pour mémoire, descendre en Ligue 2 à cause de l'état de ses finances.
Merci beaucoup, Félix. Allez, dans un instant, le grand débat du jour. François Bayrou a présenté son projet de réforme de l'administration territoriale de l'État visant à renforcer les pouvoirs des préfets. Il propose une année blanche des dépenses publiques avec un gel partiel des prestations sociales. C'est une mesure qui promet plus d'efficacité, mais qui soulève, on le sait tous, de vives inquiétudes sur les conséquences sociales notamment.
Car parmi les propositions récurrentes et notamment celles formulées par les sénateurs, le gel des prestations sociales tient la corde. Plus généralement, et c'est l'objet de notre question sur le compte X, projet de réforme Bayrou, faut-il geler les dépenses publiques pendant un an ? On vous donne le résultat de la petite consultation, allez-y. Le compte X, la question, faut-il geler les dépenses publiques pendant un an, Judith ?
Et si vous voulez réagir, 0826-300-300. Pour en parler, nous sommes avec Benoît Perrin, qui est directeur de Contribuables Associés. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors, une question rapide avant de reprendre juste après la pause. Pour vous, Benoît, mesure de bon sens, du coup, stratégie à haut risque social ?
Stratégie de bon sens et stratégie à haut risque social.
Ah, bah voilà.
Vous êtes normand. Le Tour de France est en Normandie aujourd'hui, ça tombe bien.
Centre. Allez, parlons vrai sur Sud Radio, là où les faits comptent plus que les postures. À tout de suite.
Sud Radio 7.
104.9.
Sud Radio.
Appelle-moi Johnny,
comme si j'étais un grand frère. À l'école buissonnière, où l'on m'a tout appris, appelle-moi Johnny. Hey, tu sais, j'en serais fier. Que tu me confies tes galères et te parles des miennes aussi, appelle-moi Johnny. J'étais tout seul, j'étais comme toi, à me croire toujours incompris, alors que j'attendais cette voix pour savoir enfin, enfin qui je suis. Appelle-moi Johnny. Hey! Appelle-moi Johnny. Comme ça, comme un copain qui ne te demande rien parce que le silence suffit. Appelle-moi Johnny. Quand t'as le cœur qui va pas bien, qu'on peut se tendre la main sans même attendre un merci, appelle-moi Johnny. Hey! D'autres sont seuls autour de moi, sans aucun rêve ni envie. Si j'ai la chance d'être là, c'est de t'avoir un jour suivi. Appelle-moi Johnny. Johnny, comme quelqu'un de ta famille, celui qui ne juge personne quand tout le monde l'abandonne. Appelle-moi Johnny. Hey, sache que c'est pour la vie. Qu'entre nous tous se pardonne, qu'importe comment on se prénomme. Moi, c'est juste Johnny.
Appelle-moi Johnny.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
Et dans un instant, le grand débat avec nos deux vraies voix du jour ou du soir, puisqu'on s'en rapproche. Anne-Lorraine Rousseau, journaliste pour Valeurs Actuelles, est avec nous, face à elle ou avec elle ou contre elle, ou je ne sais pas d'ailleurs. Rosie Bordet, fondatrice et directrice de l'agence en communication RB Associée et adjointe au maire du si beau village de Saint-Georges de Rhin-Tambeau dans l'Ille-et-Vilaine.
Que c'est bien descendu. Et puis sans oublier Benoît Perrin, notre invité qui est directeur de Contribuables Associés. Le grand débat du jour, c'est parti.
Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour.
François Bayrou a présenté hier son projet de refonte de l'administration territoriale de l'État. Au centre de cette réforme, un renforcement du rôle des préfets et une proposition choc qui suscite la controverse. Instaurer une année blanche pour les dépenses publiques avec notamment un gel partiel des prestations sociales, l'ambition est claire, gagner en efficacité et limiter le gaspillage. Mais à quel coût ? Est-ce une réponse lucide à l'urgence budgétaire ou une pression supplémentaire sur les plus vulnérables ?
Il faut faire 50 milliards d'économies. Certains parlementaires proposent de toucher les grandes forces. Pour d'autres, il faut geler les aides sociales. Faites vos jeux. La question sur le compte X du Sud Radio, de Sud Radio. Et pour notre débat, la voici. Projet de réforme Bayrou, faut-il geler les dépenses publiques pendant un an ? Pour l'instant, vous dites oui à 66%, donc non à 34.
Hein, c'est intéressant. Y a pas de...
Voilà, donc vous compté, êtes plutôt... Hein, oui, oui, non, mais il faut le préciser, parce que des fois, il y a des ne se prononcent pas, etc. Donc, plutôt option serrer la ceinture, mais si vous avez envie d'enlever un cran... Vous continuez de voter sur le compte X ou si vous les resserrez aussi, hein, les deux ça marche.
Ouais, chacun son truc. Hein. Alors Benoît Perrin, je vais vous reposer la question pour que vous étayiez un petit peu ce que vous nous avez dit juste avant la coupure. Hein. Pour vous, c'est tant une mesure de bon sens, pardonnez-moi, qu'une stratégie à haut risque social, cette histoire.
Daniel Blanche. Une stratégie de bon sens, pourquoi ? Le sujet est assez simple, c'est qu'on a, tout le monde le sait, des gros problèmes budgétaires et on sait de l'autre côté qu'on a de gros problèmes politiques, c'est-à-dire qu'on peut finalement, on peut pas faire voter grand-chose. Donc du coup, il faut se tourner vers les solutions les plus avec le plus d'impact, c'est-à-dire celles qui permettent de réduire considérablement les dépenses de l'État et en même temps des mesures qui soient les plus acceptables possibles pour finalement quasiment tous les Français. Donc l'année blanche, c'est quoi ? C'est très simple, c'est qu'on se dit voilà, on a 1700 milliards de dépenses en 2025. Eh bien, on en aura exactement autant en 2026. Alors, pourquoi on dit que c'est un effort budgétaire? C'est un effort budgétaire parce qu'en fait, la dépense publique, si vous ne faites rien, en fait, elle augmente tous les ans.
Avec l'inflation, pas
avec
seulement.
Avec l'inflation, vous avez totalement raison. Deux, avec un certain nombre de prestations sociales qui sont indexées automatiquement sur l'inflation. Vous avez les retraites qui sont indexées sur l'inflation. Vous avez aussi, naturellement, la revalorisation des traitements des fonctionnaires. Comme vous le savez, il y a une part de la rémunération des fonctionnaires qui est basée sur l'ancienneté. Donc, par définition, ça monte mécaniquement. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle des plans pluriannuels de dépenses, typiquement sur le ministère de la Défense, où on s'engage chaque année à dépenser un peu plus. Oui. Donc, autrement dit, si on ne fait rien... La dépense publique augmente naturellement. Donc le fait de geler la dépense publique, c'est simplement de dire, voilà, on arrête cette espèce de mécanique infernale et on se dit, voilà, on stoppe la dépense. Et pour ce faire, il y a plusieurs leviers.
Pardon, sauf s'il y a le Covid ou sauf s'il y a la guerre, mais enfin, c'est une autre histoire.
Ouais.
Alors si on a le Covid ou la guerre, bah, c'est le problème en fait du couple qui a un problème de chaudière. C'est-à-dire que le problème, c'est que un couple qui a un problème de chaudière, normalement, il fait des économies pour justement mettre de côté au cas où il y a une crise. Le problème de la France, c'est qu'on met jamais de côté. On passe son temps en fait à payer le train de vie de l'État, et du coup, on n'a pas un copec si jamais il y a un événement inattendu.
Alors il y a Jean-Philippe Tanguy du RN qui dit c'est le degré zéro de la gestion politique. Si c'est pour faire cela, autant remplacer le ministre des Finances par ChatGPT qui gérera tout aussi mollement les comptes de la nation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Anne-Lorraine ?
En fait, c'est ça la question, c'est où est-ce qu'on va geler, qu'est-ce qu'on va geler, qui va en pâtir, et est-ce que c'est vraiment stratégique de geler tout le monde à la même échelle, alors qu'il y a évidemment des secteurs dans lesquels la dépense est essentielle. On parlait justement du ministère de la Défense, on peut pas lésigner là-dessus dans le contexte actuel. Je pense aussi que ça va avoir...
La santé aussi, par exemple.
La santé, évidemment, on l'a vu aussi, on parlait du Covid tout à l'heure, voilà, on s'est retrouvés bien face au mur au moment où c'est arrivé. On est un peu les cigales dans tout ça, et donc évidemment faut pas se laisser avoir par ces belles formules d'année blanche, parce qu'en fait le constat, tout le monde le fait, les Français ont bien compris déjà, on parle de se serrer la ceinture, ils le font déjà tous en fait, enfin on le fait déjà tous, donc voilà, c'est juste une stratégie de com, on va se serrer la ceinture, ça va aller mieux, tout le monde sait qu'on va passer par là, mais après voilà, faut voir parce que les dépenses de santé, on peut pas faire autrement avec le vieillissement de la population, est-ce que ça va pas aussi avoir un impact sur la consommation derrière? Est-ce que derrière, on va aussi alléger les impôts sur les entreprises pour qu'elles puissent produire plus? Voilà, il y a plein de si dans cette année blanche.
Alors, Rosie Bordet, vous êtes élue en ruralité, hein, donc vous allez pouvoir nous parler justement de l'impact que ça pourrait avoir, ce gel, par exemple, de certaines prestations sociales sur le peuple, hein, objectivement, ou les gueux, comme les appellerait Alexandre Jardin.
D'abord, pardonnez-moi, la dépense, je pense qu'il faudrait peut-être revoir déjà au sein de l'État. Parce qu'aujourd'hui, il y a une dépense extraordinaire concernant les fonctionnaires, les millefeuilles administratifs, enfin, donc je peux dérouler, hein, on en a pour un moment. Donc je pense déjà, il faudrait peut-être regarder par là. L'année blanche, oui, je pense que c'est utile. Compte tenu de la situation au sein de nos instances, la débandade totale de nos élus, donc pour voter quelque chose, effectivement, je pense que le Premier ministre a peut-être raison, c'est plus sage de mettre une année blanche. Maintenant, pour revenir à votre question, Judith, concernant la ruralité, élue dans la ruralité. Oui, forcément qu'il va avoir une répercussion sur nous, sur le terrain. Donc, il va falloir gérer. On gère déjà, nous, les cantines.
Le quotidien, oui.
Exactement.
Alors, plus précisément, les ruralités, c'est plus les localités, en fait.
Exactement. On voit déjà que les subventions sont en train de diminuer et que ça va aller encore plus dans ce sens-là, moins de subventions. Donc, les entreprises, pour s'installer, pareil, hein, il faut alléger les charges pour que les entreprises puissent s'installer et embaucher pour le développement économique. Donc, je pense qu'on peut énumérer comme ça beaucoup de choses, mais moi, je partirais vraiment sur cette millefeuille administrative et surtout sur le nombre de fonctionnaires aujourd'hui et l'utilité. Peut-être qu'il faut avoir une vraie réflexion hein, sur la situation de la France avec des gens qu'on paye... les anciens présidents de la République, les anciens ministres, tout ça, ça coûte énormément d'argent.
Ça coûte énormément d'argent, mais ça doit être quelque chose d'un peu plus global
aussi.
Mais
c'est toujours les mêmes qui vont payer. C'est toujours les mêmes.
Benoît Perrin, est-ce que dans cette option, on l'a compris, alors appelons-le année blanche, gel des dépenses, etc., etc., est-ce que forcément, il y a une obligation de faire un choix politique? Est-ce que, finalement, vous ne dites pas, vous, il y a une réalité et il n'est pas question de dire je privilégie ça ou privilégie pas? Oui, quand même, c'est un choix politique avant tout.
Alors, c'est un choix politique avant tout. Maintenant, il faut reconnaître quand même que c'est une solution de facilité. Mais c'est une solution de facilité. La solution de facilité, c'est l'année blanche. C'est-à-dire qu'en fait, on décide de rien. Il n'y a pas de choix politique. Ouais. Au sens où, par définition, en fait, on laisse les choses en l'état.
D'où le choix politique à la Bayrou, quoi.
Exactement. Donc ça, c'est pas faux. Mais la difficulté de cette solution, c'est qu'on sait qu'elle est temporaire et que surtout, elle permet à peu près, parce que c'est quand même, il faut parler chiffres, d'économiser à peu près 20 milliards sur l'effort budgétaire qui est demandé de 40 milliards. Donc c'est à peu près 50% de l'effort peut être fait quasiment en une seconde en gélant encore une fois toutes les dépenses de l'État. Donc c'est quand même très efficace. Mais il faut pas se contenter de ça parce qu'effectivement, si vous contentez de ça, un, vous n'arrivez pas à ces fameux 40 milliards et deux, de toute façon, ce sont pas des économies structurelles. Madame a raison. Les économies structurelles, c'est quoi?
Rosie Bordet. Ouais.
Rosie Bordet a raison. Les économies structurelles, c'est quoi? C'est évidemment regarder les retraites, c'est évidemment regarder la santé, c'est évidemment regarder le budget des collectivités locales, c'est de regarder le budget de la sphère sociale, parce que la sphère sociale, c'est quand même 50% de la dépense publique. L'État, c'est 30% de la dépense publique. Les collectivités locales, c'est 20% de la dépense publique. Donc, autrement dit, on peut pas se contenter de ça. Et je vais même aller plus loin. Le drame, c'est que surtout, on peut pas se contenter de ça sur les années à venir. Comme vous le savez, simplement pour stabiliser la dette aux alentours de 110% du PIB, on doit faire à peu près 120 milliards d'économies sur les années qui viennent. Donc de toute façon, cette année blanche, elle va très probablement de toute façon se renouveler année après année parce que on a des efforts considérables à faire simplement pour encore une fois maintenir le niveau de la dette par rapport à notre PIB à 110%. Donc effectivement, il faut bien avoir conscience que on est presque au début des efforts simplement pour atteindre nos objectifs à la fois de dette et de déficit.
Bon, on peut se reposer la question que posait Rosie Bordet au départ. Anne-Lorraine, par exemple, comment ça se fait qu'on va pas couper directement dans les dépenses sur les effectivement les salaires qu'on verse encore aux anciens ministres ou le nombre de députés ou je ne sais quelle administration très lourde finalement, beaucoup de fonctionnaires, on le sait aussi, qui coûtent très cher à l'État. Pourquoi est-ce que ça serait toujours les mêmes qui trinquent?
On parlait de solutions de facilité, c'est clairement ça. C'est sûr que c'est plus facile de dire on va couper pour tout le monde alors que ça va avoir un effet peanuts sur la dette globale, sur le déficit global. Donc oui, c'est plus facile que de s'attaquer aux vrais problèmes. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, on parlait de dépenses sociales, mais aussi un gros sujet sur l'immigration. Encore une fois, on va dire encore que Valeurs Actuelles radote sur l'immigration, mais c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de dépenses inutiles aussi là-dedans et on s'inflige quelque chose un peu gratuitement.
C'est enfin, souvent évoqué d'ailleurs. On parlait des dépenses sociales, mais c'est souvent évoqué sur les protections sociales offertes aux personnes d'autres pays.
On parle de la CMU.
Voilà, et ça fait partie des débats.
À un
en
moment
tout cas.
Donné, il faut arrêter parce qu'aujourd'hui, tout est relié à l'immigration. Dès qu'il y a un problème, mais on ramène quand même le sujet sur l'immigration. Donc, je pense qu'il faut arrêter un moment et se poser aussi les bonnes questions. Donc, l'immigration, moi, je vais aller plus loin. Allez-y. C'est vrai qu'on accueille, les gens arrivent illégalement, etc. On accueille les gens, mais si... on essayait de maintenir ces gens-là. Bien sûr qu'il y a les guerres, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les continents. Je parle plutôt du continent africain que je connais un peu. Donc, si on arrivait à développer ce pays pour que les migrants restent chez eux, moi, dans ma commune, on accueille des migrants mineurs non accompagnés. Donc, vous croyez que ces petits jeunes-là, il y en a 12, de 9 ans à... Allez, on va dire 17 ans, parce que quand ils sont majeurs, ils ne restent plus là. Vous croyez que ça leur fait plaisir de vivre encadrés tout le temps et d'être toujours de l'autre côté de la barrière, regardant ce qui se passe de l'autre côté, justement, dans le village. Lorsqu'il y a une fête, etc., on essaie de les inclure. Donc, moi, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas, une maman africaine, quand elle est enceinte, est-ce qu'elle se dit « je fais à manger pour les poissons qui sont dans la Méditerranée ?» Non, à un moment, il faut arrêter. Je pense qu'il faut vraiment mettre le problème. Réglons les problèmes et arrêtons aujourd'hui avec l'immigration. Aujourd'hui, il n'y a pas d'immigrés, les restaurants ne fonctionnent pas. Donc,
c'est
à un moment.
Coup quand même, Rosy.
Oui, bien sûr qu'il y a un coût. Mais mettons les Français au travail, pardon. Peut-être là, je ne suis pas du bon côté, mais mettons les Français au travail. Payons les gens avec leur vraie valeur du travail. Donnez-leur la façon. Moi, je ne supporte pas de voir les Français qui travaillent, les travailleurs pauvres qui dorment dans leur voiture. Vous trouvez ça normal.
Mais là, je parle pas d'immigration. Ils dorment dans la voiture précisément parce que le salaire, le travail ne paye pas.
Le salaire ne paye pas.
Pourquoi le salaire ne paye pas? Il faut aller au bout du raisonnement.
Oui, oui.
Parce que vous avez beaucoup de charges sociales qui servent justement à financer un certain nombre de prestations sociales presque sans limite.
Amis, pas forcément les migrants.
Bah aussi,
sur mon village, il n'y a pas de migrants.
Je dis qu'on ne peut pas écarter l'immigration comme ça.
Oui, non.
C'est un problème parmi d'autres.
Messieurs, merci. Nous avons une auditrice qui est en ligne au 0826-300-300. On rejoint Marie-Christine qui nous appelle de Nogent le Roi et qui est avec nous pendant toute l'émission.
Marie-Christine, voilà, c'est à vous.
Oui.
Bon, vous en pensez quoi? Vous êtes plutôt du genre à dire il faut quand même qu'on se serre la ceinture ou alors arrêter, c'est toujours les mêmes nous qui faisons les efforts. Allô, est-ce que vous nous entendez?
Allô, vous m'entendez?
Oui, parfait. Alors vous êtes plutôt du genre, oui, à vous serrer la ceinture ou à dire c'est toujours les mêmes qui sont obligés de faire des efforts?
Bah écoutez, vous avez... Monsieur Perrin de Contribuables Associés, que je salue parce que je suis adhérente de cette association depuis plus de 20 ans.
Merci madame.
Vous voyez monsieur Perrin,
merci beaucoup.
C'était donc elle.
Merci,
je plaisante.
Est-ce que je vous dis que c'était elle, l'auditrice de Sud Radio? Non.
Attendez, bon, alors. Excusez-moi, Marie-Christine, on vous entend pas. Allez-y, parlez plus fort.
Oui, ça fait des années que Contribuables Associés donne des réponses extrêmement argumentées à ce genre de questions et personne, aucun politique n'en tient compte. C'est absolument scandaleux. Parce que là, il y a vraiment des points d'économie tout à fait substantiels, intéressants, utiles et nécessaires.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Marie-Christine. C'est un témoignage du bon sens.
Mais vous restez là, hein, Marie-Christine.
Vous restez avec nous parce qu'il y a encore des trucs qui se passent. Alors, on va remercier notre invité Benoît Perrin, qui est directeur de Contribuables Associés. Merci d'être venu
partager
avec nous.
Merci pour votre invitation.
Et bientôt avec ses administrés. Merci beaucoup.
Qui est bien organisé.
Voilà, puis on reste avec Anne-Lorraine Rousseau et Rosy Bordet tout de suite. Ça va être la suite de l'émission. Et le Tour de France, tout à fait.
On y va.
Sud Radio fait son Tour de France en direct.
La cinquième étape au programme, un premier grand rendez-vous aujourd'hui puisqu'il s'agissait du contre-la-montre de 33 km autour de Caen en Normandie. Est-ce que Vincent Barthaud est avec nous? C'est Pascal Chanteur, si c'est pas l'un c'est l'autre, mais c'est tout aussi bien, ils ont tous les deux fait le Tour de France et brillé. Le contre-la-montre 33 km avec une victoire attendue, c'est tout sauf une surprise, la victoire de Remco Evenepoel. Pascal Chanteur.
Oui, Remco Evenepoel était le grand favori de ce contre-la-montre. Il était important pour lui de gagner ce chrono parce que ça, c'était la priorité de ce Tour de France, de ce 112e Tour de France pour lui. Et le fait de ne pas gagner aurait été un véritable drame pour Remco.
Il gagne avec 16 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. Ça veut dire que ces 16 secondes de reprise, le grand battu du jour, ça serait qui? Alors, ça serait peut-être Jonas Vingegaard.
Oui, bien sûr. Jonas Vingegaard a fait une véritable contre-performance aujourd'hui. Je pensais qu'il allait être beaucoup mieux que ce qu'il a été sur ce sur ce contre-la-montre en terre.
Ah, on vous a perdu.
En terre normande. En terre normande, vous disiez, et on vous retrouve. Allez-y.
Et voilà. Et donc, Jonas a perdu beaucoup de temps. Il est à plus d'une minute.
1 minute 21 de perdu, oui, sur Remco voilà. Evenepoel. Effectivement. Vous qui êtes le président du syndicat des coureurs français, des belles performances françaises aujourd'hui, Pascal Chanteur.
Ah oui, Kevin Vauclin, superbe, héroïque. Il est quatrième au général aujourd'hui. Et ça, c'est une véritable performance avec un superbe chrono. Kevin Vauclin performant dans les contre-la-montre et aujourd'hui il l'a démontré.
Donc là c'est pour le classement général et puis Bruno Armira est le champion de France qui se classe quatrième. Quatrième précisément. Alors, donc je redonne le classement. Premier Remco Evenepoel, deuxième Pogacar à 16 secondes, troisième Eduardo Affini, l'italien, et puis les deux français Bruno Armira et Kevin Vauclin. Au classement général, Pogacar compte 42 secondes d'avance sur Evenepoel, 59 secondes sur Kevin Vauclin, Jonas Vingegaard à 1:13, et puis le grand battu du jour, il perd son maillot jaune, le petit Mathieu Van Der Poel.
Écoutez, c'est pas son terrain de prédilection, il l'a perdu, mais c'est pas très grave, il vise aussi des victoires d'étape, et là il va être beaucoup mieux sur les terrains qui arrivent dans les prochains jours, et surtout en toile de fond, le mur de Bretagne, là où il l'avait déjà remporté.
Merci Pascal Chanteur.
Merci,
depuis
Pascal.
Quand
Et je voulais juste dire quand même qu'à 19h, on a rendez-vous avec vous Fred, hein, pour les vraies voix qui prennent l'air ou quand les sports mécaniques se mettent au vert. Et bah c'est une spéciale. Hein.
Oui, voilà. On fera les sports mécaniques, on mettra un petit moteur.
Ça va faire vroom vroom.
Mais propre.
Voilà.
Propre le moteur.
Allez, Sud Radio, parlez vrai, à vous de jouer. Vous voulez jouer avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300. Dans un instant, c'est le quiz musical.
Sud Radio Monde.
101.9.
Sud Radio.
À tes cauchemars, tu m'appelleras la nuit, tu auras peur dans ton lit, et là tu me verras sur ton cheval de bois, je serai.
Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
Et vous avez bien raison de choisir Sud Radio, il est 17h51, on est content d'être avec vous. Et puis, je le répète, hein, au défaut, on est avec un plateau très très féminin aujourd'hui. On est avec Anne-Lorraine Rousseau, qui est journaliste pour Valeurs Actuelles.
Et puis Rosie Bordet, qui est maire adjointe chargée de tout.
5 délégations au moins.
5 délégations de la du petit village, j'allais dire de la petite ville, oui, oh. De la petite ville de Saint-Georges de Rhin-Tombeau.
C'est une belle commune de 1539 habitants.
1539. Ah oui.
C'est un bon chiffre. Ouais.
C'est un bon chiffre. Allez, dans l'Ille-et-Vilaine, hein, bien sûr.
Alors, ouais. On dit le quiz musical, mais sinon on peut dire le blind test aussi, c'est tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu.
Alors sur Sud Radio, on fait pas de bruit pour rien, vous le savez. On va vibrer avec le choix musical de Frédéric Brindel.
Oui, et on appelle Marie-Christine, évidemment. Marie-Christine, oui, voici. Alors Marie-Christine, vous avez été excellente sur le coup de gueule. Vous avez été excellente dans le débat parce qu'en plus vous avez rendu notre invité heureux.
On y va par le haut. Hein.
Vous êtes obligée de gagner. Donc je rappelle. Je rappelle le règlement.
Vous n'avez pas du tout la pression. Hein.
C'est un match.
Non.
C'est un match qui vous oppose Marie-Christine et à Rosie et à Anne-Lorraine. C'est-à-dire, c'est chacun pour sa paroisse, ou son équipe, ou sa pomme. Nous vous faisons écouter un extrait. Il faut donner l'interprète. Vous répondez le plus rapidement possible. Il y a 9 extraits. Mathématiquement, il y aura un vainqueur. Vous avez compris, je fais le décompte et Judith envoie la musique.
Moi, je dis le thème parce que vous déclarez aujourd'hui. Grande déclaration, n'est-ce pas ?
Oui, c'est marrant.
Ça déclare, sur la radio.
Premier extrait.
Si tu veux m'essayer, même une semaine.
Marie-Christine, vous l'avez ?
Non.
Ah, quand même.
J'ai la voix, mais je serais.
C'est un de nos grands.
J'ai la voix.
C'est un de nos grands ténors. Un ténor.
Je saurais pas dire non.
Non.
Un ténor.
Hein.
Et il y a tous les auditeurs de Sud Radio qui. Mais comment ça?
Je suis désolée pour eux. Hein.
Oui.
Alors, au téléphone, c'est pas facile. Hein.
Bon, le ténor, quand même, de la chanson française, enfin.
Et je vois très bien avec.
Il vient d'être malade.
Et voilà.
Florent Pagny.
0 points.
Pourquoi moi j'ai un bip faux ? Je n'ai pas compris. J'ai dit la bonne réponse, moi.
Oui, mais vous ne jouez pas, Judith.
Bon, voilà.
Deuxième extrait ?
Oui.
Vanessa Paradis.
Ah, oui, Rosie Bordet ouvre le score. But de la tête.
Ah bon ?
Ah bah oui, ça se joue intellectuellement.
Ah d'accord.
1-0-0.
Allez, numéro 3.
J'ai troqué mes cliques et mes claques.
Vianney. Égalisation de Anne-Lorraine Rousseau.
Marie-Christine, il faut parler fort pour qu'on vous entende.
Oui, là, je ne suis pas très forte, là.
Bon, mais vous aimez la musique, quand même.
Ah oui,
peut-être
bien
pas
sûr.
La même que vous.
Alors écoutez, ça va arriver.
Souvent, le visage vient à l'esprit, mais le nom nous échappe.
D'accord, moi j'ai le même problème.
C'est peut-être pour vous, celui-là. Écoutez.
Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi.
Damso. Non, pas Damso.
Non, pas du tout. Attendez, Marie-Christine, vous avez dit quoi ?
Rien.
Ah. Le Marseillais, comment il s'appelle ? Le Marseillais.
Non. Bah non.
Une
si
fois.
Si je dis un truc, personne ne va trouver. Donc,
Fois. Mais je vois la tête encore
une fois.
Je ne veux pas savoir, Marie-Christine.
Il est décédé il n'y a pas longtemps.
C'est quand même une question de génération.
Non, Camille, il n'est pas
décédé. Non, je vois très bien, il n'est pas décédé.
Judith
vient de se tromper.
Ah oui, Renoir. Ça peut arriver.
Oui, Renoir, et c'est double.
C'est Ouais Renoir, c'est ça.
Voilà, donc c'était Black M.
Black M.
Votre attention, voici le cinquième extrait.
Désolé, Black M.
Cinquième extrait.
Je veux pas me retourner, c'est sûr, elle doit me regarder.
Pas du tout.
À tous les coups, elle m'a vu, elle fait genre je l'ai pas reconnu.
Pas du tout.
C'est la Old Olaf, mais je suis pas sûre du tout.
Marie-Christine, non, vous avez pas une petite idée ?
Je connais la chanson, mais je me souviens plus du nom du chanteur.
C'est pas ma mort. Rosie, vous ne l'avez pas ?
Non, vraiment.
Pas du tout.
C'est perdu.
C'est Baba.
Benabar. Vous avez tout ce que vous voulez faire.
Non, j'ai fait exprès.
Bon,
Benabar, je n'ai pas reconnu. Hein.
Ah, moi non plus.
Ça fait un pour Rosie, un pour Anne-Lorraine, 0 pour Marie-Christine qui va trouver celle-ci, j'en suis sûr.
Vous allez la trouver, Marie-Christine.
Qui chante ?
juste quelqu'un de bien.
Allez, Marie-Christine.
Quelqu'un de bien.
C'est pas la plus connue du jeu non plus. Hein.
Bah.
Enzo.
Voilà.
Enzo.
Rosie qui prend l'avantage 2-1, c'est Enzo, effectivement.
Ah oui.
Bon, la prochaine, franchement, Marie-Christine, la prochaine, je suis sûr que vous l'avez.
Au moins un point.
Je suis sûr que ça va être Marie-Christine.
Allez.
C'est parti.
Alors, Marie-Christine.
Ah ben non, moi, c'est une chanson que je connais par cœur, mais le nom de...
C'est de la bonne variété française.
Pareil.
Ça nous rime devant la
tête. Alors, son nom est une association de pays. Une fois, deux fois, trois fois.
France Gall.
Elle n'est pas loin. Attention, il ne reste que deux extraits. Deux extraits, tout est encore possible.
Alors, lui, il est quand même exceptionnel. Hein.
Monseigneur l'astre solaire.
Brassens.
Non, je l'ai dit avant.
Je pense que c'est Rosie.
Je l'ai dit avant.
Maxime, il va trancher.
Maxime, le réalisateur.
Marie-Christine remporte les points.
Elle vous a pas demandé de tricher. C'est Rosie.
Vous êtes d'une coupable indulgence. Ah.
C'est joli. Allez, et la dernière.
Sous aucun prétexte, je ne
François Hardy,
c'est une immense victoire de Rosie Bordet.
Bravo.
Mais derrière les 4 points de Rosie Bordet, il y a un match nul entre Anne Lorraine et Marie-Christine. Vous n'êtes pas dernière, Marie-Christine.
Oh, ça va alors, je suis rassurée.
Merci Marie-Christine d'avoir joué avec nous. Vous êtes trop sympa.
Merci de m'avoir fait jouer avec vous.
Avec un grand plaisir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous voulez jouer d'ailleurs ou réagir à ce que vous entendez, 0826 300 300, c'est le standard de Sud Radio où la ravissante Aude vous attend. Et puis Sud Radio, c'est l'info sans pause. Ça va bien avec la musique derrière, comme ça, la ravissante Aude, n'est-ce pas? Sud Radio, l'info sans pause, pour ne rien manquer, les infos, c'est juste après une courte pause.
Comment te diras-tu? Comment te diras-tu?
Sud Radio Nice, 97.9 et en DAB+.
Sud Radio.
Allô Lola, c'est encore moi. J'ai beaucoup pensé à toi, Lola.
Allô.